Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciade, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons dorénavant de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Campredon. Bonjour Julien.
Bonjour Radio Occitanie.
Ah voilà, Julien parle occitan, je tiens à le préciser, ça fait plaisir. Bon, tu parleras pas trop occitan tout le long de l'émission, parce que sinon je vais rien comprendre, ça il faut pas le dire normalement, mais bon. Alors, tu vas nous présenter, on va en parler ensemble, de ton dernier recueil de nouvelles qui s'intitule « L'assassinat de la Dame de Pique », publié aux éditions Léo Cher. Mais comme à l'accoutumée, on reprend nos petites habitudes, une petite info, qui a lieu donc, une manifestation qui a lieu demain soir, vendredi 16 septembre, à Fonds Beaux-Arts, à 18h, une lecture-rencontre avec l'écrivain Ahmed Kaluaz et son roman « Avec tes mains », qui est publié aux éditions du Rouergue. Alors la manifestation, cette lecture-rencontre est gratuite. Et puis, les renseignements sont disponibles au 05 62 13 21 99. La personne qui vous répondra est tout à fait charmante. Je l'ai eu hier au téléphone. Et je vous donne l'adresse quand même. C'est au Point Jeune. C'est un peu comme elle m'a expliqué, une maison de jeunes. Hein, voilà, Point Jeune, qui se situe 8 rue des Violettes. Alors, je vous parle un tout petit peu de ce roman qui a été lauréat en 2009 du prix Léo Ferré. C'est le portrait d'un père analphabète qui a toujours travaillé dur et avait pour seul bagage ses mains pour nourrir sa famille, un parcours singulier et commun à des milliers d'immigrés maghrébins. Et puis c'est un portrait aussi d'une génération, un travail de mémoire d'une certaine histoire du XXe siècle et qui résonne encore dans la France d'aujourd'hui. Donc c'est demain soir à Fonds Beaux-Arts à 18h.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Alors, je me tourne maintenant vers mon invité, donc Julien, qui était venu il y a quelque temps à Page pour son recueil « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes ».
Il y avait aussi, une diffusion de la lecture de « Brûlons tous ces punks » que tu avais diffusée dans le cadre de l'émission.
C'est possible. Il faut le rappeler, oui. C'était en 2006.
Oui.
Donc c'est vrai, j'ai pas l'Alzheimer, mais bon, mais c'est possible si tu le dis, donc voilà. Et puis il y avait eu aussi, tu reviens donc après, donc Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, et après également Boris le Babylonien contre l'aligot littéraire.
C'est
aux
ça.
Éditions du Gay, qui était paru en 2006 aussi d'ailleurs. Et puis Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, c'était aux des éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture.
Voilà, mais alors pour Brûlons tous ces punks, il y a eu plusieurs versions, c'est-à-dire qu'en 2006, c'est la version initiale. En 2008, il y a eu un travail de réécriture du livre, donc il est ressorti en 2008 en version augmentée, et c'était la version dite de luxe.
Ah.
Et là, il ressort... fin octobre, le 20 octobre, en parallèle d'un autre recueil de nouvelles, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, et ça sera une version dite véloce, c'est-à-dire un peu raccourcie et plus offensive, en même temps que l'attaque des dauphins tueurs, qui sera mon prochain recueil.
Voilà, prochain recueil de nouvelles, donc un joli titre aussi, l'attaque des dauphins tueurs. On se demande ce qu'il va y avoir dans ces nouvelles. Mais on va parler un petit peu de toi, Julien. Alors Julien, on rappelle donc que tu es né à Montpellier, côté de la mer, voilà. Après, tu as vécu à Grenoble et...
Oh, très peu, c'est anecdotique.
Et dans le Lot.
Oui.
Également. Et puis, tu as fait des études de droit. Alors moi, je t'aurais plus volontiers imaginé en fac de lettres plutôt qu'en fac de droit, mais bon...
Oui, mais en même temps, je pense que l'adversité, ça construit. Et c'est vrai que quand j'étais en fac de droit et que je commençais à m'essayer à l'écriture, je vivais ça dans une complète incompréhension. Ça intéressait absolument personne. Et je pense que du coup, ça m'a donné...
Rendu plus fort, quoi.
Voilà. Et ça m'a donné une volonté de prouver que je pouvais y arriver, etc.
Et tu y es arrivé Julien,
j'espère.
Ben, oui, disons-le. Ne sois pas modeste.
Après, je pense que c'est aussi l'intérêt de ne pas avoir fait des études de lettres, c'est que je me suis affranchi de toute contrainte quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire que j'avais une certaine candeur qui m'a permis d'y aller franchement, sans me poser des questions de référence, sans vouloir faire un hommage à un tel ou m'inscrire dans telle école. si bien que j'ai pu... Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de barrières si j'avais fait des études de lettres et que je me suis affranchi de beaucoup de choses en n'ayant pas fait des études de lettres.
D'accord. Et bon, son l'écriture a toujours été présente dans ta vie. Hein. Tu es un passionné d'écriture. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein. Tu écris, tu traduis. Et tu es aussi passionné d'occitan. Voilà, tu traduis aussi en occitan, tu parles occitan.
Oui, ça c'est...
C'est une passion, tout comme l'écriture.
Oui. Bah, disons que je dirais que l'écriture, c'est mon métier, c'est mon activité principale et que l'occitan, c'est comme pour certains le tiercé, c'est mon dada, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je vis qui est assez personnel. Alors forcément, on a envie d'en parler, mais c'est pas mon activité comme l'écriture. C'est plus... je parle français, je parle occitan.
Oui, mais bon, tu fais des traductions là. Comme tu dis, ton activité principale, c'est l'écriture, c'est-à-dire voilà, tu écris jusqu'à maintenant des nouvelles, hein, avant le premier roman qui viendra bientôt. Hein, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais c'est quand même, tu fais aussi des traductions.
Je suis aussi sur d'autres projets.
Moi, je serais incapable de faire une traduction en occitan, tu vois. Toi, oui.
Mais je suis sur d'autres projets, qui sont encore embryonnaires, donc c'est pas trop la peine d'en parler, mais j'ai effectivement d'autres projets en occitan, mais c'est une autre corde à mon arc.
D'ailleurs, je vais faire
une lecture à Pamiers
début octobre,
je crois que c'est le samedi 5 ou le samedi 6. Bon,
je le rappellerai, voilà. Tu me donneras la date exacte.
Et ça sera une lecture bilingue, justement, à la médiathèque de Pamiers.
D'accord. Et tu seras aussi présent donc au Salon de Toulouse, hein, début novembre.
Mais le même jour, en fait.
Ah, donc c'est début novembre. Alors, c'est pas début octobre, c'est
début novembre.
Et à Toulouse, au Salon de Toulouse. Et puis, tu seras présent également au Salon du Livre de Gaillac, qui, lui, est début octobre. Voilà, on confondait avec
Gaillac.
Voilà,
c'est le premier, le 2 octobre.
Voilà, de toute façon, je rappellerai les dates aux auditeurs en temps voulu. Donc, Gaillac, Toulouse, Pamiers, avec lecture bilingue. Et donc, tu avais travaillé pendant un temps à la bibliothèque de Naïoux, où tu étais médiateur culturel.
Oui, c'est ça.
Donc là aussi, hein, les livres, la culture,
la diffusion. Pour le coup, j'ai pu faire le pont entre tout, c'est-à-dire que j'ai pu à la fois mettre un peu le nez dans la bibliothèque, monter des interventions, des demandes de bourses, créer un cercle de lecteurs, et en même temps, j'ai pu aussi faire le pont avec l'occitan, créer un cercle de parole en occitan, créer le fond. Acquérir un fonds en occitan pour la bibliothèque et essayer de faire que tout ça fasse partie d'un ensemble cohérent, parce que je pense que l'occitan fait partie de la culture et c'est pas un point marginal, donc ça faisait partie
d'une
politique
globale. D'autant plus quand on habite ici, enfin dans notre région.
Voilà, tout à fait.
C'est comme le rugby, quoi. On est un peu lié à l'histoire de cette langue. Alors, l'assassinat, revenons donc à ce recueil, donc troisième recueil de nouvelles. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc, l'assassinat de la Dame de Pique, comme je le disais, aux éditions Léo Cher. Donc, c'est un recueil de 7 nouvelles. C'est un chiffre magique, le 7.
Oui, j'espère.
Ça va te porter chance. Alors, il est de 2011, hein, de cette année.
Oui,
hein,
oui.
Il est tout frais de cette année.
Il est sorti en mai dernier.
En mai, au mois de mai, juste avant l'été. Et puis donc, comme on le disait, tu reviendras de toute façon pour nous parler donc d'un prochain recueil qui s'appelle « L'attaque des dauphins tueurs » dans quelques mois. Alors, ce recueil, l'assassinat de la Dame de Pique, alors moi, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, puisque, je le présente aujourd'hui. On retrouve ta belle écriture. Moi, je trouve que, ton écriture, elle est riche, quoi. D'ailleurs, j'ai appris un mot, j'y reviendrai tout à l'heure. J'étais contente. J'aime bien apprendre des choses en lisant. C'est intéressant. C'est une belle écriture riche et pleine de poésie, hein, certains passages. J'en lirai aussi quelques-uns qui m'ont bien plu. Puis, ce sont des nouvelles pleines de fantaisie, hein, pleines d'humour. Et puis, on se souris beaucoup à la lecture de ce recueil. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup souri. Et parce que c'est un peu... Des fois, c'est délirant, c'est complètement loufoque. C'est moqueur aussi, un moqueur à souhait.
Mais
hein.
Je pense, en fait, que c'est le côté moqueur qui entraîne le délire. C'est-à-dire que je pense qu'on vit une époque qui, en soi, est assez délirante. Donc, il suffit de transposer le même délire que celui qu'on vit sur... une autre, dans un autre contexte, et ça paraît complètement fou, mais en fait, il suffit de regarder notre monde, d'écouter les informations avec un peu de recul, par exemple, et nous vivons dans un monde complètement fou et complètement
délirant.
Oui,
mais il faut un certain talent, quand même, pour retranscrire voilà, cet effet loufoque et délirant. Moi, quand je regarde les infos, ça ne me fait pas pareil que quand je lis l'assassinat de la Dame de Pique, quand même, hein, Julien.
Ben alors, c'est que j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Eh bien, écoute, tout à fait, hein, et je suis contente pour toi.
Et pour le vocabulaire aussi, c'est une chose, pour moi, qui est importante, c'est que l'époque tend à la simplification, justement, à faire des
malheureusement.
À faire des phrases simples.
Genre texto, hein, SMS, Facebook, enfin toutes ces choses.
Et
où
puis, on m'a déjà reproché des fois de faire des phrases trop longues. Et moi, c'est quelque chose que je revendique, justement. Je pense que la littérature, vu que c'est un autre espace-temps, on a le temps, on peut avoir de la complexité. Et aussi apporter du vocabulaire, c'est-à-dire que je trouve ça encore heureux qu'on ne connaisse pas tous les mots qui sont dans un livre. Voilà.
Je trouve ça.
Et c'est comme ça qu'on les apprend.
Voilà, qu'on enrichit sa propre culture, sa propre maîtrise de la langue française. Hein, c'est important. Alors voilà, dans ce recueil, on retrouve et puis on voit ton imagination débridée et débordante. Hein, moi, je trouve que quand même, même si tu dis que il y a le support du réel au niveau des thèmes, au niveau de quand on écoute les infos de ce qui se passe, t'as quand même t'as une grande imagination.
Disons que c'est aussi ça qui me fait écrire des nouvelles, c'est-à-dire que je procède par raccourci de pensée, donc il faut utiliser un système parabolique, donc forcément retransposer la réalité, la décaler, et en plus l'élément qui est perturbateur, enfin l'élément déclencheur a forcément un côté absurde qui permet d'avoir ce raccourci de pensée, et c'est ça qui induit la forme courte.
Ouais, la forme courte, et puis le côté, tout l'humour qui se dégage de ces nouvelles, de ces 7 nouvelles. Hein.
Mais alors, j'avoue que, et particulièrement en écrivant La Dame de Pique, j'ai eu vraiment la tentation de vagabonder, et qu'on peut retrouver dans certaines nouvelles, comme par exemple Les élucubrations du capitaine Jambon, L'ultime confession, du capitaine Jambon, qui est une nouvelle qui est très longue pour une nouvelle. Et c'est vrai
que
commence à avoir envie de plus vagabonder, c'est pour ça que je parlais de mon envie de passer au roman. C'est-à-dire que je ne considère pas la nouvelle comme un genre mineur et on commence par faire ses gammes avec la nouvelle et ensuite on passe au roman. C'est que j'ai envie là de prendre plus le temps de m'étaler, de faire des descriptions, chose que j'ai courtée par le format de la nouvelle.
Oui, forcément.
Et maintenant j'ai
envie. Mais sauf dans celle-ci dont tu parlais.
Oui, qui est d'ailleurs une nouvelle très longue. Plus que très longue en fait, qui a été très longue à écrire. J'ai passé 2 ans sur ce texte.
Ah oui.
Il a eu plusieurs formats. La première version était à peu près, je pense, aux 3/4 de celle-ci. Puis ensuite, je l'ai multipliée. Donc, elle faisait 80% de cette version. Ensuite, elle a fait le double de cette version. Ensuite, je l'ai raccourci. Enfin, j'ai vraiment... au milieu de mon travail, c'était presque un roman court.
D'accord. Alors justement, on en vient donc à ces 7 nouvelles qui forment ton recueil L'assassinat de la Dame de Pique. Alors, la première nouvelle s'intitule « Les feuillets mystérieux de Steve Martins ». Alors bon, ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à quelqu'un en disant ça. Steve Martin, ça fait penser à Steve McQueen, non?
Non, mais alors...
comme quoi, les interprétations peuvent être...
Non, mais alors là, c'est en parlant avec France des éditions Anacharsis.
Ah oui.
Voilà, on était au salon de Moinsartou et ils me parlaient d'un de leurs auteurs qui s'appelle Ongaro et de sa façon de travailler, c'est-à-dire qu'il crée des personnages... En fait, il pensait un nom, et autour de ce nom, il créait un personnage qu'il laissait évoluer, qu'il faisait vivre, etc. Et c'est ça qui entraînait l'histoire. Et en fait, ce nom m'est venu sans que je sache pourquoi, et j'ai un peu essayé de faire ce qu'il m'avait expliqué, et donc de laisser vivre ce personnage sans chercher de sens. D'habitude, je cherche plutôt du sens au nom des personnages, etc. Là, il n'y en a pas, franchement. J'avais juste envie d'avoir un nom anglo-saxon.
Bien trouvé. Ça me fait penser aussi au Doc Martens, mais bon, voilà. Alors, l'étrange destinée d'un agoraphobe, je le rappelle, peur de la foule, et qui se retrouve exilé pendant 8 ans sur une île déserte.
Sans raison, c'est important.
Et c'est la mort d'une succession de gestes automatiques et inutiles, en fait, qu'il s'évertue à reproduire sur cette île, comme s'il était encore dans sa vie passée, c'est-à-dire un employé agoraphobe dans mais son
c'est,
bureau.
C'est en fait c'est le fait qu'il reproduit, c'est-à-dire que comme sa vie n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il fait ? Il se remet à travailler. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait au
pour
travail ?
Pour essayer de donner un sens. Quoi.
Mais au travail, qu'est-ce qu'il faisait déjà au travail ? Il faisait semblant de travailler. Donc, du coup, il fait semblant de faire semblant de travailler.
Il fait semblant de travailler. Voilà. Alors c'est très drôle, moi je veux dire, cette première nouvelle, elle nous met de suite dans le bain, hein, au niveau de ton écriture, de ton style,
sachant qu'on peut, hein. Alors c'est à prendre ou à laisser, mais on peut voir un appel du pied, enfin une petite connexion avec la dernière nouvelle dans ce texte.
Oui, parce qu'il déserte, voilà, il est sauvé. Donc
non, mais c'est,
fin,
c'est
voilà.
les feuillets, c'est ce qu'il lit, on peut se
oui,
demander
aussi,
si c'est
oui,
pas...
Oui, avec la bouteille voilà. à la mer de voilà. la dernière, voilà. oui, qui est du même titre d'ailleurs que le nom du recueil, L'assassinat de la Dame de Pique. Ben, on va y venir hein, tout doucement. Donc la deuxième nouvelle, c'est la vision cinétique du monde par Monsieur Aimé de la Grotte. Alors voilà, un grand titre pour cette nouvelle qui est très drôle aussi. Alors, Monsieur de la Grotte, évidemment, ne s'appelait pas de la Grotte au départ.
Non, il s'appelait de la Crotte.
Voilà.
Parce
avec
qu'il
un
a
C.
un nom occitan, c'est de la Crotte. Et ça, il ne le supporte pas. Parce voilà. qu'il est monté à Paris, on l'appelle Monsieur Crotte. Et ça, il ne le supporte
pas. Il renie
pas.
Ses voilà. origines, entre guillemets, méridionales.
Comme hein. en fait, il se déteste. Du coup, il déteste les autres. Et c'est quelqu'un de très, très raciste. Puisqu'en
ah,
fait,
oui, oui.
avant
là,
tout...
Le thème, est... c'est l'esclavagisme. Hein, dans,
voilà,
dans
mais
la
en fait,
hein,
en, mais voilà. alors, il est raciste. Enfin, parce que ça se passe quand même, il faut le dire, au 19e siècle, donc c'est pas aujourd'hui, donc
oui.
c'est vraiment quelqu'un de très colonialiste, mmh. mais qui est lui-même, qui se colonise lui-même, et donc du coup qui se déteste, qui déteste le Midi, et qui veut absolument...
Qui déteste son nom, puisqu'il voilà. le fait changer.
Qui hein, veut devenir plus blanc
le
que blanc.
Le C quoi. En G, hein, voilà. Et effectivement, donc, qui déteste tout le monde, on le voit bien, donc là aussi c'est une nouvelle pleine de... plein d'actualités, si on peut dire. Hein. Enfin, oui.
Mais alors, celle-là a une particularité parce que autant j'ai énormément travaillé sur la nouvelle dont j'ai parlé précédemment, autant celle-ci, c'était, j'avais, c'est la dernière que j'ai écrite. J'avais beaucoup travaillé sur le recueil. J'étais vraiment à bloc, on va dire, et je suis allé faire une intervention du côté de Brest. Et
ah,
c'est dans le train, en fait, entre Nantes et Brest, que j'ai écrite la première version, et c'est vraiment venu d'un seul coup. Quoi. Donc,
d'accord.
Ce qui est très rare, hein, mais celle-là...
Oui, d'un seul jet, comme ça. Alors, la troisième nouvelle s'appelle « La griffure du genêt scorpion ». Alors, là, il y a un mot original qui m'a bien plu aussi, c'est « adolescence ».
Oui, mais alors c'est quelque chose...
J'aime bien ça.
Oui, mais alors c'est...
C'est pas adolescence, c'est adolescence.
Oui, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, mais alors ce qui m'avait
j'aime
le plus
bien.
Sidéré, c'était une fois où j'étais justement à la médiathèque de Naïou et que j'étais à l'accueil et que je proposais à quelqu'un de venir au cercle de lecture. Donc cette personne qui devait avoir 40 ans venait avec son enfant, il m'a dit « Moi, vous savez, je suis un adolescent. » Donc ça m'avait laissé sans voix et du
et
coup
oui,
j'ai
repris, ben voilà, ben moi ça m'a fait pareil, voilà, ouais. mélange d'adulte et d'ado.
Voilà,
c'est tout à fait... Moi je trouve le mot très joli en plus, donc adolescence. Après, c'est une nouvelle, ça m'a fait penser à un moment, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, à la série V. Tu sais, les lézards qui se déguisent en hommes, là.
Ah oui, non, non. Mais
non, mais oui, moi, j'y ai vu ça. Enfin, ça m'a fait penser à cette série, quoi, tu sais.
Ben là, c'est une nouvelle, pour le coup, alors, que j'ai beaucoup travaillé, mais où je me suis laissé dériver. C'est-à-dire qu'en général, j'ai quand même une idée de ce que je veux faire et je travaille beaucoup pour y arriver. Autant là, c'est une nouvelle, c'est un peu une dérive. Je me laisse dériver sur cette nouvelle et voilà.
Ben, à un moment, d'ailleurs, tu dérives tellement bien que moi j'ai adoré la superbe évocation du vin de Corbière. Hein. D'ailleurs, je vais la lire, je vais en profiter parce que vraiment, ça donne vraiment envie de déguster ce vin. Tu écris « J'aime ce vin condensé de garrigue à l'épaisseur liquide. Il me rappelle, sans coup férir, une rivière dans laquelle on aurait versé des figues et des mûres, du thym, du romarin et du mauvais caractère de vigneron. » À boire ce vin, le chant rocailleux des collines souffle à l'oreille de l'humanité le murmure ancestral des vieux cèpes entremêlés aux pierres disjointes. Moi, je trouve ça magistralement évocateur.
C'est gentil. Et c'est, là, c'est aussi une volonté. Comme il y a quand même plusieurs types de littérature et une littérature qui est, comme on dit, englobiche mainstream. et qui met beaucoup de mots en anglais aussi, qui évoque, qui met, pose carrément des marques, qui les gens boivent de la bière, sont sur du Ikea et on cite carrément les gens, etc. Donc, j'ai, même si à ma petite, selon mes moyens, j'essaie aussi de faire ma part de propagande et je dis buvez du vin des Corbières ou du vin de Gaillac et arrêtez de boire de la bière. Voilà, même si j'en bois de temps en temps.
Bon, en tout cas, moi, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage où, voilà, où tu décris si bien ce vin. Puis il y a une petite, un clin d'œil aussi à la sophrologie aussi dans cette nouvelle.
Oui.
J'ai bien aimé où c'est... Tu n'aimes pas la sophrologie.
Ah si, non, si. C'était pour rigoler, mais...
Non, je sais bien.
C'est un clin d'œil. Mais c'est aussi parce que j'aime bien aussi avoir un peu de dérision par rapport au personnage. Donc c'est pour ça que...
De toute façon, le recueil est à cette image, il est moqueur.
C'est plus le personnage qui est un peu ridicule que la sophrologie.
Donc la quatrième nouvelle s'appelle « L'ultime confession du capitaine Jambon ». Alors là, c'est moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est l'encre sympathique au citron. Alors je ne sais pas si toi tu l'avais déjà eu fait.
Ah ben non, moi je l'ai découvert justement en lisant Pierre Macorlan que je cite.
D'accord.
C'est dans, c'est dans l'auberge du Bon Chien Jaune que j'ai découvert.
Moi ça m'a fait plaisir de retrouver ce petit côté un peu
mais
magique
mais
de l'encre
sympathique. C'est aussi mon
enfance
parce que l'encre sympathique. Bah oui. Moi j'ai lu Pierre Macorlan quand j'avais 8 ou 10 ans quoi.
Ah oui, d'accord. Donc tu l'avais découvert à ce moment-là,
voilà.
Et tu l'as déjà testé, donc
et
cette...
Non. Mais par contre, c'est vraiment, j'ai travaillé là, c'est les histoires imbriquées dans l'histoire, voilà. Enfin,
Alors ça, c'est moi, elle m'a fait beaucoup rire cette nouvelle. À un moment, donc on lit, j'attends le déluge. Et vous, quel bon vent vous amène? C'est Guy qui parle ainsi à Lucien. Ça fait penser évidemment à Noé, forcément, parce qu'avec la péniche.
Bah, à part que là, cet homme a effectivement une péniche. Il attend le déluge, mais au lieu d'élever tous les animaux de la terre, il élève que des cochons.
Que des porcs, voilà. Oui. Et puis le bouquet d'églantines, ça m'a fait penser à la chanson de Jodassin.
Oui, ça c'est oui.
Ouais. Là, je me suis pas trompé, c'était
non,
bien
non,
ça.
Non, oui,
ah,
c'est
voilà.
Clair.
Ça m'y a fait penser. Et puis donc, il y a Guy donc, et sa péniche, comme tu le disais, voilà, comme une arche, mais sans toutes les espèces animales, juste des porcs. Et à un moment, tu dis aussi, là, c'est aussi un clin d'œil, une moquerie, un gros porc noir partageant une vague ressemblance avec Hemingway et Bukowski.
Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'ils n'ont pas des très belles peaux.
Donc, voilà, petit clin d'œil. Et puis, donc, Lucien, à un moment, tu écris, qui a le cœur greffé sur la main. J'aime bien cette...
Oui, mais parce que ça, c'est le discours actuel qu'on entend beaucoup. C'est, oh, moi, je suis généreux, j'aime l'amour, j'aime les gens,
oui,
j'aime
greffé
donner.
Greffé sur la main, j'aime bien cette notion de greffé.
Oui, non, mais c'est ça. On a l'impression que les gens vont carrément s'arracher le cœur pour dire, regardez comme il est gros. Oui. Et ça me fait penser à Renaud qui dit, elle grave un cœur et lui un foie. C'est un peu... Voilà.
Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça c'est les confessions voilà du capitaine Jambon, donc c'est vraiment très drôle. Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. Ensuite la cinquième, ouais parce que je suis obligée de me dépêcher parce que le train nous rattrape toujours trop vite. Alors la vallée des hommes désespérés, celle-là aussi je l'ai bien aimée. Alors la phrase du début, je vais vous la donner de suite, ça donne le ton. L'homme regarde hagard la couverture déchirée du livre de sa vie, claqué au vent des âmes perdues. Alors déjà, moi, j'aime beaucoup cette phrase.
Mais j'ai voulu vraiment, en plus, le surjouer au début parce qu'en fait, c'est lui-même qui se parle et donc il est très emphatique parce qu'il s'aime beaucoup. Donc...
Jordi qui vient de se faire plaquer par voilà. Lucie, sa voilà. copine, et qui va rencontrer Petit Gros et Grand Beau et dans un café. Et puis après, donc, qui commence une discussion entre hommes sur les femmes. Hein, voilà. Et donc, au début, sur une terrasse de café. Puis après, ils vont se balader donc, dans la ville. Et puis, ils vont rencontrer un moment un groupe de féministes. Et là, il y a un passage tout à fait délirant, avec Grand Beau, voilà. Et puis la fin, j'aime beaucoup aussi la fin, puisque c'est écrit « Oui, déjà les amoureux s'en iront par là où ils ont déjà été, et même ailleurs, ils iront surtout ailleurs, évitant bien de trop passer par le passé, car ce serait redondant ».
Mais parce qu'il y a un travail sur les temps aussi dans la nouvelle.
Oui, tout à fait. Mais quelque part, c'est tout à fait exact. Enfin, c'est tout à fait vrai, je trouve. Voilà, on évite de passer par le passé.
Oui.
Vaut mieux d'ailleurs.
Mais surtout que c'est le problème principal d'aujourd'hui. Mais enfin, on ne va pas s'étaler sur cette nouvelle. Mais
non. Mais voilà, oui, parce qu'après, il y a les photos des dauphins aussi qui pourront regagner le large. Parce que bon, il y a aussi l'histoire de la photo avec les dauphins. Donc voilà, c'est la nouvelle... Il y a de la poésie dedans.
Oui, mais
un peu dans tout, hein, d'ailleurs. Bah,
je pense que la poésie est une part intégrante de l'écriture.
Oui.
Donc,
Non, ça dépend de ton écriture à toi.
Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je
dis. Oui, mais c'est très bien. Ne change rien.
Merci.
Alors, la sixième, celle-là, je l'avais, à chaque fois, je vais dire, je l'ai bien aimée. Mais bon, c'est vrai, je l'aime bien aussi, celle-là. Saint-Orero, mémoire de la gitane qui danse.
Alors, publiée dans la revue Brève, là, je fais une petite page de publicité. La revue Brève qui publie tous les 3 mois un recueil collectif de nouvelles. Je vous invite fortement à vous abonner ou en tout cas acheter
et lire Brève. Dans n'importe quel kiosque à journaux
Ou non, dans les librairies.
Dans les librairies,
et si elles y sont pas, ça se commande.
La revue Brève. Et donc, elle y est, cette nouvelle,
voilà.
Y est aussi. Alors ça, c'est un hommage à Toulouse. Hein,
un hommage aussi un peu à regret, c'est-à-dire c'est un peu une rupture amoureuse, on va dire. C'est un peu de la déception par rapport à la
ville. Oui, mais bon, voilà, il y a quand même le Pont Neuf, il y a l'Hôtel Dieu,
oreillettes,
la Violette.
Ah oui, non, mais tout est lié à Toulouse, c'est une nouvelle sur Toulouse.
Et puis la tante, hein, la vieille tante.
Qui incarne Toulouse.
Voilà, qui incarne Toulouse. Alors, les bonbons à la Violette. Qui sentait bon l'ennui, ça j'ai bien aimé.
Et la vieille.
C'est une odeur spéciale, la violette. Hein. La vieille tante donc du mercredi, hein, qui habite donc à Toulouse. Et puis tu écris, elle leva sa tête en papillote de rides. C'est joli ça aussi. Voilà, on l'imagine toute. Voilà. Et puis elle rassemble ses souvenirs comme un vacancier ses valises. Et oui, parce que bon, c'est tout le travail de mémoire, quoi. Enfin, tout ce qui s'est tout ce qu'elle
a
vécu.
Elle a une mémoire qui est longue.
Oui.
Pour le coup.
Et alors, il y a l'histoire aussi de Saint-Saturnin, ou Saint-Cernin, comme on l'appelle ici. Voilà. Alors, un peu revisité, hein. Enfin, voilà.
Oui.
Voilà. Même carrément.
Bah, c'est l'idée que c'est l'initiateur de la tauromachie moderne.
Voilà, tout à fait. Et il y a la superbe conversation avec le torero sur l'affiche, dans la cuisine de la tante, de la vieille, tante. Non, c'est une nouvelle qui est vraiment excellente, également, quoi. Vraiment très, très amusante. Puis, alors, la septième, on arrive à la dernière, donc, qui porte le même nom que le recueil de nouvelles, l'assassinat de la dame de pique. Donc là, c'est déjà, il y a une phrase en prélude de Cesare Lombroso, extrait de L'homme criminel, je crois.
Mais là, j'étais un peu obligée dans la mesure où je me suis, au niveau de l'écriture, beaucoup inspirée des écrits de Lombroso. Donc,
Alors, je la cite, hein, parce que moi, j'ai bien aimé. Puis elle a vraiment, elle prélude bien à la suite de l'histoire. Donc, la vanité des criminels est supérieure à celle des artistes, des littérateurs et des femmes galantes. C'est tout un programme. Alors, ça se passe sur un vaisseau allemand, hein, avec un capitaine allemand, et au départ, et son âme damnée, donc un chinois.
Le chinois.
Alors, au départ, ils sont au moins une trentaine d'hommes sur ce bateau. Il y a des Basques, des Français, des Portugais. Puis finalement, au total, ils se retrouvent 12 marins portugais, dont certains sont enfermés
ils
sont tous enfermés dans la cale,
ils
sont punis. Et donc, dans la bande, il y a Ramiro, à la vanité supérieure, justement, voilà, on peut dire, et qui règle les fins de partie de cartes à coups d'armes à feu, carrément.
Voilà.
Lui, au moins, ça se...
Il tyrannise les autres, en fait. C'est un jeu de pouvoir et de domination. Et en fait,
avec l'homosexualité.
Voilà, avec une homosexualité latente, mais c'est-à-dire qu'il y a un couple d'homosexuels et il y en a un qui se rebelle et il est stigmatisé parce qu'en gros, on se moque de son homosexualité, alors qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'il dérange parce qu'il se rebelle.
Alors, le temps nous a rattrapés, Julien. On écoute ta chanson du groupe
Manel,
un groupe catalan. Et la chanson, c'est
El Boomerang.
Alors, tu viendras bientôt nous parler donc du prochain recueil.
Oui, qui sort alors avec Brûlons tous ces punks le 20 octobre.
Le 20 octobre. Et en attendant, lisez, je vous le recommande, L'assassinat de la dame de pique aux éditions Léo Cher de Julien Campredon. Désolé, Julien, ça se passe trop
merci,
vite à
Claire,
chaque fois avec toi.
Super.
Et à bientôt, en tout cas. Merci
à très
beaucoup
bientôt.
À toi. Et on écoute.
Ràdio Ciutadana, 88.3, en comença Ràdio Ciutadana.